même du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aux Juifs qui discutaient sa mission divine, Jésus aimait répondre. Scrutez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Et aujourd'hui, aux protestants qui veulent nier le rôle de la Vierge Marie dans l'œuvre du salut, ou aux catholiques, aux conciliants qui veulent minimiser ou cacher ce rôle pour ne pas déplaire aux protestants, nous pouvons dire de même, scrutez les Écritures, elles rendent témoignage à la bienheureuse Vierge Marie. Et c'est particulièrement le cas de l'évangile des noces de Cana que nous venons d'entendre. Mais on peut dire que c'est le cas de toute la Bible, puisque dès ses premières pages, le premier des livres sacrés, le livre de la Genèse, annonce que le serpent qui a réussi à entraîner l'humanité dans le péché trouvera face à lui pour le combattre et lui écraser la tête, une femme et sa descendance. C'est ainsi qu'est annoncé le Messie, une femme et sa descendance. Et donc, de même que la femme a collaboré au péché du premier Adam, de même, elle collaborera à la rédemption opérée par le second Adam. Et nous avons ici, dès le seuil de l'Ancien Testament, comme une clé d'interprétation qui nous avertit de prêter attention non seulement aux annonces et aux figures du Sauveur, le Messie, annonce qu'on trouve presque à toutes les pages, mais aussi aux annonces et aux figures de la femme qui lui sera associée, la nouvelle Ève, grande ennemie du serpent infernal. Bien sûr, il serait trop long, mes frères, de détailler ici chacune de ces figures. Il faut quand même souligner qu'elles sont fournies non seulement par des personnages féminins de l'Ancien Testament, mais aussi parfois par des objets comme la toison de Gédéon ou bien surtout l'arche d'alliance. Si maintenant nous parlons notre enquête aux quatre évangiles, on remarque assez vite que la révélation du mystère de Marie y est donnée de façon progressive et qu'elle est beaucoup plus développée dans les deux derniers évangiles que dans les deux premiers. Ceci, Saint Matthieu et Saint Marc, ne l'ignorent pas totalement. Vous avez peut-être encore dans l'oreille la phrase de l'évangile de l'Épiphanie où Saint Matthieu précise que les mages venaient adorer le Christ, le couvert, avec Marie, sa mère. Et Saint Matthieu souligne aussi soigneusement la virginité de la Mère de Dieu. Mais il semble dépendre d'une source liée à Saint Joseph et présenter, donc, naturellement, les choses, surtout par rapport à lui. Tandis que Saint Luc et Saint Jean nous présentent directement les actions et les paroles de la Sainte Vierge. Voilà. Ici, mes frères, dans la Sainte Écriture elle-même, la réponse à une objection que font fréquemment les protestants. Ils disent, et sur ce point précisément d'accord, que la dévotion à Marie s'est développée avec le temps, et que les premiers chrétiens n'avaient ni chapelet, ni scapulaire, ni statue de Notre-Dame de Lourdes, et qu'il faut donc se débarrasser de tous ces ajouts, puisqu'ils ne sont pas dans la Bible. Mais c'est oublié que la Bible elle-même, d'un évangéliste à l'autre, montre une attention croissante à la Vierge Marie parmi les chrétiens. Il est évident que les premières prédications de Saint Pierre se centraient sur l'essentiel du message et du mystère du Christ, et particulièrement sur sa passion et sa résurrection. Et ce sont ces prédications qu'on retrouve pour l'essentiel dans l'évangile de Saint Marc. Mais assez rapidement, Saint Luc a eu l'idée, et on n'en sera jamais suffisamment reconnaissant, d'aller recueillir directement le témoignage de Notre-Dame. Et c'est ainsi, parce qu'il a interrogé Notre-Dame, que Saint Luc peut nous donner le contenu pour le essentiel des cinq mystères joyeux du rosaire, l'annonciation du jour du moment de Jésus au Temple, et nous donne aussi les trois cantiques du Nouveau Testament, le cantique de Zacharie, le cantique de Notre-Dame, le Magnificat, le cantique de Simeon, et plus décidément, c'est la Vierge Marie qui a reçu tout cela. Quand on considère le pré-évangile de Saint-Luc, on y trouve ainsi révélé d'une part les vertus de la Sainte Vierge. On aperçoit par exemple dans la scène de l'Annonciation à la fois sa prudence, son obéissance, sa simplicité face à l'annonce de l'ange, et aussi on s'aperçoit, et c'est une précision capitale, de la façon dont sollicité par l'ange, elle a répondu fiat, oui, à l'incarnation. Et donc elle a participé au cœur de l'humanité, demandé son avis et demandé qu'elle participe volontairement à ce grand mystère. Saint-Luc nous donne aussi, par le fait même, comme un reflet, un écho de ce qui était dans le cœur de la Sainte Vierge. Et lui-même souligne en deux reprises qu'elle est essentielle de la vie de la Sainte Vierge, elle gardait et repassait dans son cœur les faits et les dires de son Fils. On pourrait rajouter un garder, elle repassait dans son cœur et elle chantait dans son cœur, et c'est encore une fois. Elle nous a transmis les trois cantiques de Zacharie elle-même et de Siméon, et on peut penser régulièrement qu'elle les chantait en louange à Dieu. Et la Sainte Vierge est si laconique, on le voit dans la scène de Cana, la plupart du temps, devient tout à coup prolixe quand il s'agit de chanter les louanges de Dieu, c'est ce qu'elle fait dans son magnifique. On est donc là une révélation du cœur de la Sainte Vierge, cœur que l'on peut appeler l'arche d'alliance du Nouveau Testament. On savait déjà par saint Marc et saint Matthieu que la Sainte Vierge avait gardé, conservé en elle-même le Fils de Dieu pendant 9 mois. Elle méritait donc déjà ce titre d'arche d'alliance. Mais maintenant, elle le mérite non plus d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue moral et spirituel, puisque l'on sait qu'elle a passé sa vie à garder dans son cœur tout ce qu'avait fait son Fils. Elle est vraiment par excellence la nouvelle arche d'alliance. Mais puisque cette arche d'alliance contient un trésor, il est tout naturel que ce trésor doit être inventorié avec le temps et que l'Église, au fur et à mesure que le temps passe, découvre de nouveaux aspects, on met en valeur de nouvelles facettes. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles choses, il s'agit simplement de mieux comprendre, mieux d'emporter ce qui était déjà dans le cœur de la Sainte Vierge, qui nous a déjà été transmis par Saint. Saint Jean nous apporte encore autre chose, car d'une certaine manière, on peut dire, il va nous livrer ce que l'humilité, la réserve de la Sainte Vierge, n'avait pas donné à Saint Luc. Saint Jean a été le témoin privilégié des rapports entre notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère. Et ces rapports, il est décrit en livrant deux scènes qui sont importantes, parce que c'est la première à laquelle il a assisté, et aussi la dernière. La première fois qu'il les a vus ensemble, la dernière fois qu'il les a vus ensemble. La première fois, c'est à Cana. On sait que c'est la première, puisque à ce moment-là, Saint Jean vient juste de rejoindre le groupe des disciples de notre Seigneur. Si on lit son évangile, on s'aperçoit qu'il était auprès de Jean-Baptiste, et qu'il a vu Jean-Baptiste désigner Jésus en disant que Jésus était plus grand que lui, en annonçant que Jésus était l'agneau de Dieu. Et il s'est décidé à suivre Jésus avec sa compagnie, s'est approché de demander maître, demandez-vous. Il a passé une journée assis avec Jésus, et sans doute, ce jeune homme, parce que c'est le plus jeune des disciples, a essayé de regarder avec toute la vivacité dont il était capable de retenir tout ce qui se passait. Et puis c'est juste après que Jésus emmène ses nouveaux disciples à Cana. On peut imaginer avec quel regard, après avoir découvert la personne de Jésus, le jeune Jean a regardé la mère de Jésus. Il a dit, mais j'en
première fois, les individus attentifs à saisir, et vous avez parlé ensemble, saisir ce qu'ils échangent. C'est pour ça qu'ils peuvent nommer ces détails que nous venons d'entendre. La deuxième scène, c'est évidemment la dernière, la scène du calvaire, où Saint Jean apporte encore une décision très importante, la scène de la Sabbat, se tenir près de la croix. Et il a pu assister à la scène d'adieu entre notre Seigneur et sa mère, avec la fameuse phrase « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Cette deuxième scène est beaucoup plus tragique. Mais la première, qui commence comme une scène de réjouissance familiale, est aussi finalement très importante, puisque Jésus inaugure la série des signes, c'est-à-dire des miracles, qui prouvent sa mission divine. Et dans les deux scènes, on remarque que Jésus désigne solennellement sa mère sous le titre de femme. Il appelle ainsi femme. Et il faut noter que ça n'est pas du tout péjoratif, comme certains peuvent le dire aujourd'hui. Non, c'est au contraire un titre de respect. Il reste un peu comme ça, comme si un fils appelait sa mère madame. Donc, on sait que certains ont pu dire que c'est ainsi que justement certains princes. Et donc, on voit le titre de respect de Jésus envers sa mère, ou bien le rappel de l'annonce faite dans la Genèse, indiquant qu'il aurait une femme et sa descendance. Passons maintenant au détail de cette scène de Cana, et voyons en particulier deux phrases de la Sainte Vierge, les deux phrases qu'elle prononce assez brèves. L'une à notre Seigneur lui-même, l'autre au serviteur. Au premier, elle indique simplement qu'il n'en plus de vin, et au deuxième, elle déclare tout ce qu'il vous demandera, faites-le. Les deux côtés, la Sainte Vierge prend une initiative. Mais c'est une initiative qui manifeste aussi une certaine résolution. Mais maintenant, une grande discrétion. Ne décline pas les demandes, les sollicitations, les pleurs auprès de son fils. Elle se contente très simplement de lui indiquer la situation en la tasse de plus de 3 mots du nom Abanite. Et on peut remarquer la délicatesse, la retenue, l'économie des moyens et aussi la maîtrise de soi qui se manifeste dans cette petite phrase. Et ensuite, après avoir exercé cette prière, le plus délicate des demandes, presque seulement une suggestion, la Sainte Vierge ne se laisse pas émouvoir par le refus apparent que lui adresse son fils, qui dit mon âme n'est pas encore prévu, que commence la série des miracles de notre Seigneur. Et avec la même délicatesse, la même efficacité, efficacité, donc c'est la même retenue, elle indique à la fois plus sous le ton du conseil que sous celui de l'ordre au serviteur tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et ensuite, elle peut s'écarter et laisser faire les choses. Il y a eu donc deux initiatives de la Sainte Vierge, l'une vers le haut, vers Dieu, vers son Fils, et l'autre vers les hommes. Et c'est tout à fait la représentation de ce qu'on appelle le double mouvement de la médiation de la Sainte Vierge. Quand on parle de la médiation de la Sainte Vierge, elle se fait d'une façon ascendante et descendante. Ascendante, c'est-à-dire par rapport à Dieu, en l'occurrence par rapport à son Fils, elle vient présenter à son Fils les besoins des hommes. Et ça peut se résumer en cette petite phrase, et non plus de pain. C'est le pain qui est aussi le symbole mais aussi de la grâce divine, il manque de la grâce divine pour telle, en telle ou telle action qu'on doit faire. Et la Sainte Vierge n'a pas besoin d'en dire plus, elle souligne discrètement nos besoins, son cœur de mère ne pas faire moins, mais cela suffit pour qu'elle soit écoutée par son fils. Et j'ai ainsi prononcé le mot cœur de mère, il est évident que pour comprendre ce mystère du Cana, ce qui s'est passé dans les noces de Cana, il faut toucher en relation entre le cœur de notre Seigneur Jésus et le cœur de sa mère. Elle a dit ça, elle a déjà donné, elle a reçu ce qu'elle dans le cœur de la Sainte Vierge. Mais si on voit de façon encore plus pratique, d'abord, la Sainte Vierge perçoit immédiatement les besoins et le parrain de ses hôtes. Elle a peut-être été la première à se rendre compte qu'il manque des vins, qu'il a donné rapidement, se trouver dans une situation assez humiliante pour eux. Et tout de suite, elle agit. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle vient de ce qu'elle peut faire avec discrétion et efficacité. Et ensuite, c'est ce cœur, le cœur de sa mère, qui appuie la demande qu'elle fait à son fils. Elle n'a pas besoin de multiplier les sollicitations, les insistances, parce que justement, elle a un rapport de charité avec son fils, qu'elle sait que cela suffit à appuyer d'un poids énorme tout ce qu'elle lui dira. Enfin, et la même charité l'a fait s'adresser au Seigneur pour qu'il ne manque pas la grâce de son fils pour elle de leur donner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la médiation descendante. D'un côté, elle intervient auprès de Dieu, et de l'autre côté, elle intervient auprès des hommes. Comment? Par son simple conseil, tout ce qu'il lui dira fait Dieu. Autrement dit, la Sainte Vierge rend attentive à la grâce qui va être reçue et prépare les hommes à dire oui et à collaborer à cette œuvre que Dieu peut faire en eux, car Dieu demande généralement une collaboration de l'homme qui peut accorder quelque temps. Il suffit que l'homme dise non, simplement qu'il contourne le regard, qu'il ne s'y intéresse pas, pour que la grâce soit perdue. La Sainte Vierge vient donc rendre attentif à la grâce pour que les hommes ne s'en détournent pas. C'est encore une fois la médiation descendante de la Vierge Marie. Et il faut remarquer comment, dans les deux cas, il y a une très grande soumission à la volonté de Dieu, une très grande discrétion. La Sainte Vierge ne prend pas la place de son fils. C'est peut-être le revers de. Ce qui nous est révélé, d'un côté, on voit la grande importance qu'elle a dans cette scène, puisque non seulement elle va ainsi déclencher la série des signes et miracles de notre Seigneur, mais aussi, ça j'en dis à la fin, c'est grâce à elle que les disciples vont avoir pour la première fois cette foi en notre Seigneur, ces disciples vont être enlevés. Donc, elle va passer à l'origine, non seulement de l'eau changée en vin, mais à l'origine de leur foi qui se développe dans le cœur des apôtres, mais en même temps, elle ne prend aucunement la place de notre Seigneur. Elle va simplement appuyer de façon efficace, solliciter d'abord, et ensuite appuyer de façon efficace son action en disposant des hommes à la recevoir. Donc on parle de la déviation de la Sainte-Vierge, on a ici le plus bel exemple de ce que c'est, et dans quoi, eh bien, ça se fait. Ce problème du tout pour tout, d'imaginer que parce que Marie médiatrice, elle veut prendre la place de ce fils, comme c'est une tradition habituelle. Les protestants aiment sortir, avec un peu son contexte, la phrase de l'apôtre qui dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et bien sûr, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais si, imaginez qu'il n'y ait pas arrangé qu'un seul pont. Avec ces deux femmes, un unique pont, on dira forcément qu'il n'y a qu'un seul point de passage pour passer d'une partie de la ville à l'autre. Maintenant, s'il y a une rue qui permet d'arriver sur le pont, le fait de dire que cette rue est le point de passage, qui va nous permettre de passer d'un côté à l'autre sera également vrai. Et donc, à partir du moment où la Sainte Vierge est pour ainsi dire, comme la rue qui permet d'accéder au pont, dire qu'elle est médiatrice ne fait pas d'elle une médiatrice concurrente de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire un pont parallèle, comme si on avait le choix entre les deux, et uniquement de voir que le médiateur, l'unique médiateur, s'est associé à la nouvelle ère et qu'avec lui, il travaille. cette belle évangile de Cana pour renouveler dans nos cœurs notre confiance envers la Vierge Marie à l'époque où elle commence à être attaquée. Il ne s'agit pas de nous plaire à tel ou tel hérétique, il s'agit de vivre la vie chrétienne comme Dieu le veut. Et la vie chrétienne nous a été donnée par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Il faut donc nous rappeler que, puisque Jésus nous est donné par Marie, nous n'avons pas le droit de les séparer. Et c'est dans la mesure où nous prions Marie, particulièrement, nous nous rendons tous les jours, comme on dit dans l'Ave, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, nous recevrons par son intermédiaire la grâce que son Fils nous a méritée. Attachons-nous à cette dévotion, la dévotion d'abord au Saint-Rosaire, la dévotion à l'Ave Maria, et soyons sûrs, c'est la, ce que les saints appellent une marque de prédestination, c'est-à-dire d'être pris à Sainte Vierge.